Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'enquête sur l'assassinat de Jean Aprin en décembre 2012 à La Roque-Brussane dans le Var. Il était viticulteur et on l'a retrouvé mort au milieu de ses vignes. Je ne peux pas vous en dire plus, sauf à dévoiler la fin, mais sachez déjà que vous allez tomber sur une sacrée cocotte. Vous ne serez pas déçus du voyage. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire a pour décor un vignoble dans le Var. Un vignoble dans un village de presque 2500 habitants, La Roque-Brussane. Un après-midi de décembre 2012, une femme se présente à la gendarmerie accompagnée de sa belle-sœur. Elle est toute tourneboulée et il y a de quoi.
Bonjour. Je m'appelle Nadine Aprin. On est viticulteur ici à La Roque-Brussane. Et voilà, je viens de trouver mon mari mort dans le hangar au milieu de nos vignes.
Et où ça exactement, madame ?
À la sortie du village, au creux de l'escalier, vous voyez ?
Ah oui, je vois très bien. Ça s'est passé quand, madame ?
Je sais pas vraiment. Il a passé la nuit là-bas dans son hangar, il faisait ça souvent et il avait peur qu'on lui vole le matériel.
D'accord. Et il est pas rentré ce matin ?
Non. Au début, je me suis pas inquiété, je me suis dit qu'il avait enchaîné à travailler sur nos vignes, passé tout son temps là-bas, le pauvre. Mais c'est à midi, quand j'ai pas vu qu'il revenait pour déjeuner, que j'ai commencé à me faire du souci, et donc j'ai pris ma voiture. Et je suis allé jusqu'au hangar avec ma belle-sœur.
Et vous l'avez trouvé mort dans le hangar ?
Non. Pas dans le hangar. Dans le coffre de sa voiture.
Dans le coffre de sa voiture ? Et je comprends pas.
Oui, dans le coffre. Alors comme je suis aide-soignante, avec ma belle-sœur, on l'a sorti du coffre. Et j'ai essayé de lui faire un massage cardiaque, mais j'ai vite vu que ça servait à rien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui a pu se passer ? 17 ans qu'on était mariés. Vous vous rendez compte ? 17 ans.
Bien, madame. Vous pouvez nous amener sur place ?
Oui, oui, bien sûr.
Allez, passez devant, hein, et on vous suit. Quand ils arrivent devant le hangar, les gendarmes découvrent le cadavre de Jean Aprin, 48 ans, couché au pied de sa voiture. Et donc vous dites, madame, qu'il était dans le coffre, hein, et que c'est vous qui l'avez sorti pour lui faire un massage cardiaque, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça exactement. Je dois vous dire qu'il avait des problèmes cardiaques, mon Jean. Je ne sais pas si ça vous intéresse de le savoir de suite, mais il buvait pas mal.
D'accord, madame, mais s'il avait fait un malaise, on l'aurait retrouvé sur le sol, de son hangar, ou éventuellement dans ses vignes. Et là, vous me dites qu'il était dans le coffre.
Je me dis que peut-être il a commencé à se sentir mal, qu'il a essayé d'aller jusqu'à sa voiture et que il est tombé à la renverse dans le coffre.
C'est une hypothèse, mais quand même, j'ai un peu de mal à la croire. Hein. Même si je vois pas de traces de coups sur son corps, pas non plus de perte de sang, pourquoi pas. En posant quelques questions dans le village, les gendarmes découvrent qu'effectivement, ces derniers temps, Jean Aprin n'allait pas bien.
Oh, les vendanges, je l'avais épuisé. On voyait bien qu'il n'arrivait pas à s'en remettre. Il était fatigué, il avait mauvaise mine. Moi, ça m'étonne pas trop qu'il ait fait un malaise. Hein. C'est la vigne qui l'a tué. Et elle en a tué d'autres avant lui. Et elle en tuera d'autres après, je vous le dis.
Et les gendarmes n'ont pas beaucoup de questions à poser pour découvrir l'histoire de ce couple, Nadine et Jean Aprin. Les vignes sont à elle. Elle en a hérité de son père. Lui, à la base, il était chef de rayon dans un supermarché. Et puis, en épousant Nadine, il y a 17 ans, il est devenu viticulteur. Mais attention, au début, c'était en plus du supermarché.
Oh, attention, hein. C'était un courageux, là. Il s'était pris de passion pour ses vignes. Il s'y donnait corps et âme dès qu'il a épousé Nadine. Et il avait transmis le virus à son fils, Romain. Il veut même devenir œnologue, le gamin.
À La Roque-Brussane, les gendarmes ne trouvent personne pour dire autre chose que Jean était un courageux. Que Jean n'avait qu'un rêve, faire de la petite exploitation familiale une propriété de référence, le croc de l'escalier. Tous racontent qu'il a bâti de ses mains ce grand hangar devant lequel on l'a trouvé mort. Et tous disent que tous les jours, il se levait aux aurores et passait des journées entières dans ses vignes. Rien de plus attirait des gens du coin. Mais tout ça, en vérité, les gendarmes de la brigade de La Roque-Brussane ne l'entendent que d'une oreille. Parce que définitivement, dans cette mort apparemment naturelle, il y a un truc qui les chagrine.
Ce type-là, sa femme, elle le trouve en chaussette dans le coffre de sa voiture. On est d'accord. D'abord, qu'est-ce qu'il fichait en chaussette? Et pourquoi il est allé faire son malaise devant le coffre de sa voiture en chaussette, en laissant ses chaussures rangées dans le hangar? Mais il n'y a pas que ça. La voiture, elle est à quoi? 30 mètres du hangar. Si on veut bien admettre, même si c'est bizarre, qu'il y soit allé en chaussette, alors pourquoi il n'y a pas de saleté sous ses chaussettes, hein? Elles sont propres comme pour aller à la messe, ces chaussettes. Il y a un truc qui colle pas. On m'enlèvera pas de l'idée que le type est mort avant et qu'ensuite, on l'a mis dans le coffre.
Et les gendarmes font eux-mêmes l'expérience. Ils enlèvent leur grolle dans le hangar et vont en chaussettes jusqu'à la voiture.
Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Elles sont crado, mes chaussettes. Elles sont pleines de sable. Et du sable, il y en a partout sur le sol. Et sur ces chaussettes à lui, il n'y en a pas un grain. Ça veut dire que ce type-là, on l'a amené dans le coffre, il n'y est pas allé tout seul. Et il n'est pas tombé dans le coffre en faisant un malaise. On l'a tué, ce gonze, les gars. On l'a tué, c'est un meurtre.
Et le rapport d'autopsie, quelques jours plus tard, confirme les intuitions des Colombos de La Roque-Brussane.
Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que votre gars n'est pas mort d'une crise cardiaque, hein. Ça, c'est absolument certain.
Mais alors de quoi il est mort, docteur?
Œdème pulmonaire. Il a été étouffé, votre homme. Et c'est de ça qu'il est mort. Mais c'est pas tout, il a aussi été étranglé.
Étranglé? Avec les mains?
Non. Non, pas avec les mains. Avec, je dirais, une corde, un lacet, plutôt large, quelque chose comme ça.
Donc c'est un homicide?
Donc c'est un homicide, oui.
Il s'en doutait déjà, mais maintenant c'est officiel. Et vous aussi, n'est-ce pas, vous vous en doutiez? Je vous raconte rarement des histoires de viticulteurs en chaussettes qui font une crise cardiaque devant le coffre de leur voiture. Le temps de rendre le corps à la famille, Jean Aprin est enterré à La Roque-Brussane le 24 décembre, veille de Noël. Au premier rang, évidemment, Nadine et leur fils Romain. Et derrière, serré dans la petite église, la quasi-totalité des habitants de La Roque-Brussane, hantés par une seule et même question. Mais qui a pu faire ça? Et pourquoi? Certains avancent une explication.
Il venait juste acheter du matériel tout neuf. Ça a pu faire des amieux, non? Vous pensez pas? C'est pas pour rien qu'il dormait dans son hangar. Il avait peur qu'on lui fauche son matos. Et il avait bien raison. Alors à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher tous ces traînes savates de la région, là, qui n'ont qu'une idée, nous voler notre matériel. Il a dû les surprendre. Et eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient là. Et pim, pam, poum, ils l'ont étouffé.
Je vais être très honnête avec vous. Les gendarmes ne croient pas trop à ce scénario. Les voleurs n'étouffent pas. Les voleurs fracassent la tête, les voleurs sortent le fusil. Mais on n'a jamais vu un voleur étouffer sa victime. Et ensuite l'étrangler. Mais au cas où, ils explorent la piste d'une rivalité entre viticulteurs du village.
Ça, je peux vous dire, sans me tromper, que Jean n'avait pas d'ennemis. Aucun. Et une maîtresse? Un mari jaloux? Jean? Non, pas du tout, le Jean. Des chauds lapins, il n'en manque pas dans le coin. Mais pas Jean, hein. Ça, c'est sûr.
Bon, ben, ça nous fait zéro piste, ça. Une semaine après les obsèques, les gendarmes sont de retour au hangar du Croc de l'Escalier, pour une raison très simple. On leur a dit que les scellés qui condamnaient la porte du hangar avaient été brisés. Ça arrive, le vent peut-être. Ils sont en train de remettre les scellés quand arrive le fils, que j'ai décidé pour mon histoire d'appeler Romain, mais ça n'est pas son vrai prénom, il n'a que 16 ans. Il a bien le droit que son prénom ne soit pas révélé. Et d'ailleurs, c'est la loi qui nous y oblige. Alors appliquons la loi. Et donc, Romain arrive sur place. Et franchement, il n'a pas l'air dans son assiette. Son père est mort, ça n'est pas tout à fait anormal. Mais il se dandine comme ça, d'un pied sur l'autre, avec l'air d'avoir quelque chose à dire.
Et bonjour Romain, ça va? Pas trop, hein? Dis-moi Romain, tu serais d'accord pour qu'on discute tous les deux tout à l'heure? Tu pourrais passer à la gendarmerie comme ça. Ça sera informel.
D'accord. Je veux bien, mais il faut que j'en parle d'abord à maman.
D'accord. On dit 15 heures, ça te va? À tout à l'heure, Romain.
Le gamin arrive pile à l'heure et il s'assoit en face du chef d'enquête. Et là, ça va très vite.
J'ai des révélations à vous faire sur la mort de mon père. C'est moi qui l'ai tué avec ma mère.
Le gendarme ne s'y attendait pas du tout. Il ne l'a absolument pas vu venir. Il est sur le cul. D'autant plus que le gamin enchaîne.
Ça a commencé l'après-midi du 5 décembre. On lui a mis des somnifères dans son café. Et c'est moi qui les ai écrasés. Combien de somnifères, tu t'en souviens? Combien? Je sais plus, mais beaucoup. Et après, Romain? Et après, j'ai mis la poudre dans la cafetière et lui, il a pris son café. Ça a agi tout de suite, il s'est mis à bâiller. Et il est monté dans sa chambre et il s'est endormi.
Il s'est endormi immédiatement?
Oui. Après, avec maman, on est monté pour vérifier. On l'a secoué et il se réveillait pas.
Attendez la suite. Vous n'allez pas le regretter.
Après, avec maman, on a mis de l'alcool à brûler et de l'eau de Javel sur un coussin. Et on lui a mis le coussin sur son nez et sur sa bouche. Et voilà, on l'a étouffé. Mais on n'était pas sûr qu'il était mort. Alors, au cas où, avec maman, on a pris une ceinture et on lui a mis autour du cou et on a tiré chacun de son côté en serrant le plus fort possible. J'ai tiré tellement fort que j'ai eu mal aux mains pendant plusieurs jours.
Ça a duré combien de temps, tout ça, petit?
Je sais pas, je dirais une demi-heure.
Et après?
Eh bien, on a vérifié que son cœur battait plus. Et puis on l'a mis dans le coffre de sa voiture. On est allé au hangar à deux voitures. Et voilà, on a laissé la voiture là-bas.
Ça alors? Mon Dieu, quels aveux! tout ça dans la bouche d'un gamin de 16 ans, qui manifestement ne mesure pas la gravité de ce qu'il a fait. C'est un assassinat, Romain. Tu risques la prison pour longtemps, et ta mère, pour perpète. Il n'a pas du tout l'air de réaliser. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'il n'a pas du tout la tête de quelqu'un qui peut commettre un tel meurtre. Il est tout frêle, tout gentil, un peu introverti peut-être. Il ressemble à tellement d'ados de cet âge-là. Et pourtant, avec sa mère, ils ont passé une ceinture autour du cou du père et tiré ensuite sur la ceinture pendant de longues minutes, chacun de leur côté. C'est un crime terrifiant de froideur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Eh bien, les gendarmes convoquent la mère, et ils font plus que ça. Ils la placent en garde à vue pour lui coller un bon coup de pression. Bien, madame Apreng, je suppose que vous savez pour quelle raison vous êtes en garde à vue. Eh bien, non. Là, je vois pas du tout pourquoi vous me mettez en garde à vue. Franchement, je sais pas ce que je fais là. Vous êtes en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour assassinat, madame. Assassinat de qui ? De mon mari ? De Jean ? Oui, madame. Moi ? Assassiner mon propre mari ? Mais jamais. J'avais rien contre lui. On s'entendait très bien, vous savez. Votre fils, madame, vient de nous raconter sur procès-verbal que vous lui aviez tous les deux administré dans un premier temps un somnifère, qu'ensuite vous l'aviez étouffé avec un oreiller, et qu'enfin, vous avez fini par l'étrangler avec une ceinture. Vous savez, mon fils, il a beaucoup d'imagination. Selon vous, il nous a menti. C'est un adolescent très imaginatif, oui. Ce qu'il raconte est complètement faux. Il a fabulé totalement. Et elle dit ça, avec des accents de sincérité, il faut bien le reconnaître. Et du coup, les gendarmes se disent, et si le gamin avait menti ? Pour des raisons qui restent à explorer, mais s'il avait menti, s'il était dérangé, mythomane, affabulateur, comme elle le dit, ça arrive. Faut se méfier des sales gosses. Pour savoir qui ment du fils et de la mère, les gendarmes ont une solution. Les analyses toxicologiques, c'est-à-dire les prélèvements réalisés sur le cadavre de Jean Apreng au moment de l'autopsie. Prélèvement d'urine, de sang et du contenu de son estomac. Les résultats arrivent en général bien après l'autopsie. Dites-moi, docteur, est-ce que vous avez relevé des traces somnifères dans le corps de M. Apreng ?
Ah oui, ça je vous le confirme. Une grande quantité d'un somnifère qui s'appelle le noctamide. C'est un hypnotique très puissant.
Quand vous dites grosse quantité, docteur, vous pourriez être plus précis ?
Écoutez, je dirais 6 à 7 comprimés de noctamide de 2 mg. Sachant qu'un seul comprimé peut faire dormir un insomniaque pendant au moins 5 heures. Donc 6 à 7 cachés, je vous laisse imaginer.
Alors, les colombos du dimanche soir, qu'est-ce que vous en dites ? Ça valide plutôt la version du fils, non ? Il a parlé spontanément de somnifères, il n'a pas pu l'inventer. Et c'est pas fini.
Vous devez savoir que je n'ai pas trouvé que des traces de noctabide dans les prélèvements. J'ai aussi trouvé des traces qui me paraissent plus anciennes, de deux neuroleptiques très puissants qui sont l'aldol et le tertian.
Ce sont des médicaments qui sont en vente libre en pharmacie, ça, docteur ?
Ah non, pas du tout, non. Il faut une ordonnance, en général, d'un psychiatre.
Les gendarmes vérifient. Jean Apreng ne s'est jamais vu prescrire de neuroleptiques. Et si les traces sont anciennes, c'est donc qu'ils ont tenté de le tuer avant. Immédiatement, les gendarmes procèdent à la perquisition de la maison des Apreng. Et ils saisissent notamment l'ordinateur de Nadine, qu'ils font expertiser.
Oh putain, regarde, regarde les recherches qu'elle a faites sur Internet. Comment tuer avec la mort au rat ?
Quel est le pouvoir létal du haldol, du tertian et du noctamine? Ces questions, elle les a posées à Google plusieurs semaines avant la mort de son mari. Et tout ça, évidemment, vient définitivement valider les aveux du fils, qui dit avoir tué son père avec sa mère, et qui dit aussi qu'ils avaient déjà essayé de le tuer 2 semaines avant.
C'était un dimanche. Maman, elle m'a dit de broyer 48 comprimés de somnifères, et on l'a mis dans son manger. Et après, papa, il est parti se coucher, et il s'est réveillé 2 jours plus tard.
Et quand il s'est réveillé, il n'a rien dit.
Il a dit que c'était sans doute à cause des vendanges, que ça l'avait fatigué.
Fatigué au point de pioncer 2 jours? Je veux bien, mais je n'ai jamais vu ça. Et il ne s'est pas inquiété quand il s'est réveillé?
Oui. Et maman l'a amené à l'hôpital de Brignoles, où elle travaille. Et ils lui ont fait des examens de sang et ils ont trouvé un léger taux de cholestérol.
Le cholestérol, ça ne vous fait pas dormir 2 jours? Mais à l'hôpital, ils n'ont pas fait d'analyse toxicologique. Et donc, ils n'ont pas vu la masse de somnifères qu'il avait dans le sang. Et avec 48 cachetons, elle espérait sans doute qu'il allait mourir de lui-même. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et donc, comme ça n'a pas marché, elle a recommencé. Il va falloir qu'elle arrête de nous balader, maman. Et d'ailleurs, réinterrogée, elle finit par lâcher le morceau. Et au passage, elle livre un mobile.
Bon. Oui, c'est moi qui l'ai tué avec mon fils. Mais c'est parce qu'il était odieux avec moi. Il buvait comme un trou, il me battait. Et des fois, il m'a même violé.
Et tout ça depuis le début de votre mariage, madame?
Non, pas tout à fait. Ça faisait 22 ans qu'on était ensemble. Mais depuis 17 ans qu'on était mariés, il passait son temps à me mettre plus bas que terre, à m'insulter, à me donner des coups de poing, souvent dans le ventre pour pas que ça se voie.
Mais ça n'est pas tout ce que Nadine a pas lancé sur son mari.
Pour vous dire comment il était violent, il y a 10 ans, on a eu un deuxième enfant, un petit garçon. On l'appelait Flavien. Et il est mort à l'âge de 2 mois et demi. C'est Jacques qui l'a tué! Il le frappait, il le secouait. C'est lui qui l'a tué. Voilà, maintenant vous savez tout, vous savez pourquoi avec mon fils. On a fini par le tuer.
Ah, si c'est vrai, ça change tout. Ça reste un meurtre, mais avec un mobile assez bouleversant, si c'est vrai. Parce que le médecin urgentiste qui a constaté le décès du petit Flavien il y a 10 ans, ne raconte pas du tout la même histoire. Ah, moi, je suis absolument formel. L'enfant ne portait aucun signe de violence. Il est mort de ce qu'on appelle une mort subite du nourrisson. Il est même établi que quand Flavien est mort, il était à l'arrière de la voiture de sa mère et que son père était en déplacement ce jour-là. Alors, au cas où, les gendarmes cherchent tout de même à vérifier si Jean Apprin était porté sur la bouteille, comme elle le dit. Personne ne confirme. Elle nous balade, mes mères. Elle nous balade. En auscultant l'ordinateur de Nadine, les gendarmes découvrent autre chose d'assez croustillant. Elle est inscrite sur 7 sites de rencontres libertines et échangistes. Et en étudiant son téléphone portable, ils trouvent encore mieux.
Écoute bien, tu vas pas y croire. Entre la mort de son mari et ses obsèques, elle a entretenu, t'es bien essayé, des relations avec 6 hommes différents. 6!
Oh la salope! La salope! Oh! La salope! Oh! Oh la salope!
Pardon. Je sais que c'est pas bien, hein. Mais ça m'a échappé. Et c'est pas tout. Elle a aussi une garçonnière, un petit appartement pour recevoir ses amants à la sortie du travail. Bref, au terme de leur garde à vue, la mère et le fils
sont mis en examen pour assassinat. La suite de l'enquête va chercher à définir le rôle précis de la mère et du fils dans ce meurtre. Comment en a-t-elle fait le complice de cet assassinat? Un gamin de 16 ans. Et là, on découvre le pot aux roses. Romain n'était pas le fils de Jean. Quand elle l'a épousé, elle était déjà enceinte. Et lui, il a fermé les yeux. Et ça, elle ne l'avait jamais dit au gamin. Jusqu'au moment où il a fallu le motiver pour qu'il l'aide à tuer Jean. Alors elle lui a dit « Ton père n'est pas ton père ». La salope ! La salope ! Et là, on en vient à la question éternelle. Pourquoi n'a-t-elle pas divorcé au lieu de le tuer ? Eh bien parce qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté intégrale. Si elle divorçait, elle perdait la moitié du vignoble. Le vignoble dont elle avait hérité de ses parents. Et puis il y a peut-être un autre élément qui l'a poussée au crime. Tant que Jean travaillait au supermarché, elle avait tout le temps d'organiser ses 5 à 7 dans sa garçonnière avec ses amants. Quand il a arrêté pour se consacrer au vignoble, c'était plus possible. Et donc il est devenu encombrant. Le procès qui va suivre est bien intéressant. Est-ce que le fils va prendre autant que la mère ? Le procès de Nadine Aprin et de son fils s'ouvre en juin 2015 devant la cour d'assises de Draguignan. Et comme le gamin était mineur au moment des faits, le procès a lieu à huis clos, c'est-à-dire sans public et sans journaliste. Mais grâce aux avocats, on sait un peu ce qui s'est passé à l'intérieur. Le fils comparaît libre. Il est sorti après un an de détention provisoire. Elle, bien sûr, est détenue. Lui maintient ce qu'il a dit lors de ses aveux. Il assume. Alors qu'elle, elle finasse avec une certaine lâcheté. Moi, j'ai juste aidé mon fils à déplacer le corps de mon mari quand j'ai vu qu'il était mort. Rien de plus. Mais elle ne dit pas non plus que c'est son fils qui l'a tué. Rendons-lui cette grâce. Le gamin, en revanche, est assez bouleversant quand il raconte.
Elle m'a manipulé pour me monter contre mon père. Je pensais vraiment qu'il était violent avec elle. Et je l'ai cru aussi quand elle m'a dit que mon père était responsable de la mort de mon petit frère. Le soir du crime, je peux vous dire que j'ai lutté pour la dissuader. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué à l'aider.
Et là, il fait un malaise. Et puis un deuxième malaise. Il faut l'évacuer et suspendre l'audience. Les débats reprennent le lendemain. Et Nadine ne dira rien de plus que ce qu'elle a déjà dit. Pas un mot. Jusqu'au bout, elle exerce son droit au silence. L'avocat général se lève pour les réquisitions.
Elle est l'instigatrice. Et le malheur, c'est qu'elle a réussi à convaincre son fils et à l'entraîner. Alors son silence est frustrant pour les jurés. Mais il est aussi dévastateur pour son fils. Je vous demande en conséquence pour Nadine Poeto, épouse Aprin, une peine de 30 années de réclusion criminelle. Et pour son fils, une peine de 8 années de réclusion criminelle qui tiendra compte de son jeune âge et de l'emprise que sa mère exerçait sur lui.
Finalement, les jurés sont encore plus compréhensifs pour le fils que l'avocat général. Il est condamné à 5 ans, dont un an ferme seulement. Et comme il a déjà purgé sa peine en détention provisoire, il ressort libre du tribunal. En revanche, Nadine Aprin est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.